On est pire que dans l'erreur judiciaire, on est dans l'absurdité judiciaire. Il n'y a rien qui accuse d'une façon ou d'une autre Bruno et Pascal. Et d'ailleurs, eux sont sans voix. Ils disent, nous, on n'a fait que notre métier, on est pilote. Alors, c'est, vous êtes français, vous êtes en République dominicaine, vous êtes en danger.
Bonsoir, opération Dîner en ville, le nom d'une incroyable mission commando sortie d'un scénario de James Bond. À l'automne 2015, l'exfiltration en pleine mer de Pascal Forêt et Bruno Odos, deux pilotes français condamnés à 20 ans de prison par un tribunal de Saint-Domingue pour un trafic de drogue à bord d'un jet privé. La retentissante affaire Air Cocaïne, deux hommes qui clament leur innocence et qui vont être secourus par un groupe d'amis qui, depuis la France, vont voler à leur secours. C'est cette exfiltration organisée à la façon d'une opération militaire que nous allons raconter ce soir, avec en exclusivité dans l'heure du crime l'homme qui l'avait pensé, préparé, exécuté, Christophe Naudin, qui publie un livre sur le sujet. Avec lui, nous allons également revenir sur les troublants dessous de cette affaire Air Cocaïne, officiellement une prise de 630 kilos de drogue, mais curieusement, une poudre blanche que personne ne verra. Une enquête dans le désordre, un procès expéditif, des peines écrasantes. Le salut des pilotes clamant leur innocence sera donc dans la fuite, quitte pour cela à enfreindre la loi et pour certains, dont notre invité Christophe Naudin, à payer au prix fort cette décision.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Air Cocaïne, deux pilotes français qui vont finir par s'enfuir de Saint-Domingue à l'automne 2015. Mais pour eux, tout a commencé 2 ans auparavant sur un aéroport de cette île des Caraïbes. Ce 19 mars 2013, aux alentours de 22h, rien ne bouge sur les pistes de l'aéroport de Punta Cana à Saint-Domingue. Un jet privé, un Falcon 50, est garé au fond du parking. C'est un appareil qui appartient au roi de la lunette, l'entrepreneur Alain Flelou, mais qui est exploité par une société de leasing, la SNTHS. On aperçoit à bord le pilote, Pascal Forêt, 54 ans, effectuer les dernières vérifications, le check-up habituel avant le décollage pour la France, destination finale, le petit aéroport de la Mole, juste à côté de Saint-Tropez. Le copilote, Bruno Odos, 54 ans, compile lui les documents de vol, deux professionnels confirmés, des anciens militaires, sérieux et appliqués, qui n'ont jamais attiré l'attention. Deux autres Français sont inscrits sur ce vol, le dénommé Alain Castani, 66 ans. Il est inscrit comme personnel de bord, il travaille avec la société SNTHS, et en quelque sorte organiser ce voyage. Et puis Nicolas Pisapia, 37 ans, un homme d'affaires. Le pilote Pascal Forêt entend du bruit. Ce sont des bagages en nombre qu'on entasse dans la carlingue. La soute est pleine, tout le monde est là. Ne reste plus qu'à décoller, mais l'autorisation n'arrive pas. Vers 22h30, une rumeur gronde autour de l'avion. Un hélicoptère de la DNCD, l'agence anti-drogue dominicaine, braque ses puissants projecteurs sur le jet. En quelques secondes, des militaires en tenue de combat, casqués, cagoulés, équipés de pistolets mitrailleurs, encerclent le Falcon. Les pilotes sont aveuglés par les lampes torches. Personne ne bouge. La scène va durer une éternité, au moins 2 heures, entièrement filmée. Les images seront bientôt diffusées par toutes les télévisions, jusqu'en France. L'avion est mis sans dessus-dessous. Les militaires finissent par extraire tous les bagages. Les 4 Français sont menottés, conduits au terminal VIP. Ils sont accusés de trafic de stupéfiants. Une grosse prise! Le général Rosado Mateo, chef de l'agence antidrogue et qui a mené en personne la capture des trafiquants, parle de 630 kilos de cocaïne. Une marchandise que personne ne va voir, ni en vrai, ni en photo. Les autorités indiqueront que la drogue a été rapidement détruite, ainsi que le voudrait la législation locale. Tous les occupants du jet sont jetés en prison sans ménagement. 43 militaires et douaniers locaux, des complices présumés, sont également interpellés. Ils seront quasiment tous relâchés. Les autorités françaises n'ont pas été alertées de cette opération, jamais sollicitées. Il va s'avérer que l'enquête est pour le moins curieuse. signature absente, documents antidatés, conversation cockpit effacée. Les pilotes affirment tout ignorer du chargement. Ils rappellent qu'il n'est pas dans leur prérogative de vérifier le contenu des valises. Leurs avocats diront « Demanderiez-vous à un chauffeur de taxi de connaître le contenu des bagages de ses clients ?» La NAS se referme sur les deux pilotes et les deux passagers. Pas question de les laisser quitter l'île pour les autorités. L'instruction de ce dossier va être longue, lente et tortueuse. Il faudra attendre 2 ans pour que s'ouvre leur procès. Les 4 occupants du Falcon sont tous incarcérés. Les pilotes Pascal Fauré et Bruno Odos sont transférés à la prison d'Anamouya, placés en quartier de haute sécurité où on leur rase la tête. Les visites s'effectuent au compte-gouttes. Les deux hommes ne peuvent pas communiquer entre eux. Ils ont beau répéter qu'ils ignorent tout de ce transport, ils restent accusés d'un trafic qui se chiffrerait à quelques 20 millions d'euros. Leurs affaires risque même de se compliquer car la France a ouvert de son côté une enquête sur les vols du Falcon, rebaptisé d'emblée Air Cocaine. Quelques mois auparavant, 9 décembre 2012, le jet avait été observé sur le petit aéroport de la Mole à Saint-Tropez. Pascal Fauré et Bruno Odos étaient déjà aux commandes de l'appareil en ce milieu de journée, même passagers. Des témoins avaient alors assisté à une scène intrigante. Le portail ouvert de l'aéroport, 2 voitures approchant le Falcon, 2 hommes descendant pour en extraire des valises qui semblaient sales et couvertes de boue, plutôt lourdes au regard des efforts déployés. Le convoi avait ensuite disparu et dans la foulée, les gendarmes de Saint-Tropez prévenus de ce manège. La juge marseillaise Christine Saunier-Ruelland est persuadée que cette navette privée dissimule en fait un trafic de drogue. Le 22 mai 2013, elle vient interroger les Français à Saint-Domingue. Ils sont mis en examen. Suit en France une série d'arrestations, celle des affréteurs du jet et des responsables de la société SNTHS. Les mois passent et les récriminations des amis des pilotes, constitués en France en comité de soutien et de leurs familles, ne semblent pas émouvoir outre mesure les autorités dominicaines. Le 8 mai 2015, la juge Elka Reyes, après 4 décisions reportées, décide du renvoi des 4 Français devant un tribunal. Les avocats des pilotes, à l'époque Jean Reynard et Éric Lefrançois, et celui du membre d'équipage Alain Castani, maître Karim Beylouni, soutiennent que le trio n'avait pas à vérifier les bagages de leur unique passager. Argument repoussé. Le 29 mai 2015 s'ouvre le procès qui va durer presque 3 mois. Le procureur Milciades Guzman affirme que les valises ont été introduites frauduleusement dans l'appareil, un trou percé dans le grillage de l'aéroport. Le 14 août, les 2 pilotes et les 2 passagers sont condamnés à 20 ans de prison, la peine maximale. Bruno Odos évoque un cauchemar. Pascal Fauré, une catastrophe, surtout pour sa famille. Il est père de 4 enfants. Les préparatifs de l'opération baptisée Dîner en ville ou Dîner à Paris vont aller bon train. Il s'agit de sortir du piège de Saint-Domingue, les 2 pilotes français. Ils sont en résidence surveillée dans l'attente de leur procès en appel, sans véritable espoir d'être acquittés. Dans les jours qui suivent leur condamnation, les pilotes du vol Air Cocaine, Pascal Fauré et Bruno Odos, reçoivent la visite du Français Christophe Naudin. Ce spécialiste d'aéronautique et de questions de sécurité et de défense est venu s'assurer que les 2 hommes avaient bien l'intention de s'évader. Naudin obtient une réponse positive. Les pilotes disent vivre un enfer. Ils sont prêts à quitter l'île à n'importe quel prix. Et peu importe s'ils doivent rendre des comptes à la justice française. Christophe Naudin, l'ingénieur en quelque sorte de cette opération, nom de code Dîner en ville, un dîner promis aux 2 pilotes à Paris, a déjà évalué plusieurs scénarios. Une exfiltration par les airs, mais celle-ci, même si elle serait la plus rapide, est techniquement trop risquée. Il va être question également de louer un gros hélicoptère, mais réflexion faite et après avoir engagé des tractations sur place, cette location finirait par se savoir et attirer l'attention des autorités. Finalement, c'est une exfiltration par la mer qui est retenue. Y participeront le politique Aymeric Choprade, son ancien attaché parlementaire et ex-militaire Pierre Malinowski, lui aussi a été encarté au FN, et Christophe Naudin. 20 personnes au total sont impliquées dans l'opération qui va nécessiter un investissement de 100 000 euros. À la mi-octobre 2015, Christophe Naudin est sur l'île de Saint-Martin pour prendre possession du voilier qu'il a loué, baptisé le Cormoran. Cap au large, les eaux internationales. 5 jours de navigation pour un rendez-vous fixé en haute mer avec un plus petit bateau surnommé le Crabe, dans lequel ont pris place Aymeric Choprade, Pierre Malinowski et les deux pilotes. Ces derniers ont été briefés des détails de l'opération. Il leur a été recommandé de s'entraîner à la nage. Ils ont reçu en dotation un gilet de sauvetage. Le 25 octobre, à 7h06, la jonction des deux bateaux est effectuée. 3 minutes plus tard, Pascal Fauré et Bruno Audos montent à bord du Cormoran. « Les crustacés sont dans la nasse », annonce alors un message codé. Le Crabe peut repartir tranquillement vers Saint-Domingue. À l'hôtel où ils étaient en résidence surveillée, les deux pilotes ont laissé toutes leurs affaires, y compris leurs uniformes, afin de ne pas attirer l'attention. Les autorités locales vont mettre du temps à se rendre compte de cette disparition. Après une longue navigation, les pilotes embarquent sur un vol commercial direction la France. Mission accomplie, même si les ennuis sont loin d'être terminés. Des pilotes qui n'en ont pas fini avec la justice française. Quant à l'artisan de leur exfiltration, Christophe Naudin, il va payer très cher son implication dans cette opération. Il va revenir à Saint-Domingue, contraint et forcé. Fin octobre 2015, dès leur arrivée sur le territoire français, les deux pilotes du vol Air Cocaïne, Pascal Fauré et Bruno Audos, avaient fait savoir aux autorités judiciaires qu'ils se tenaient à leur disposition. Le 30 octobre, ils sont interpellés à leur domicile respectif, l'un à Saint-Cyr au Mont-d'Or près de Lyon, l'autre à Autran dans l'Isère, transféré à Marseille. Le 3 novembre, à 9h30, Bruno Audos est le premier interrogé par la juge Sonia Ruelan. L'ancien capitaine de l'armée de l'air raconte dans le détail l'exfiltration. Il indique avoir été, tout comme son collègue Pascal Fauré, contacté par Christophe Naudin. Il détaille ensuite la présentation du plan de fuite et le départ en mer, explique que Christophe Naudin leur a remis des billets d'avion de la compagnie Corsair à leur nom. Le 9 novembre, la chambre de l'instruction décide de maintenir les deux hommes en prison. Ils vont rester plus de 5 mois en détention provisoire, dans l'attente de leur procès avec 7 autres personnes, toutes soupçonnées de trafic de stupéfiants sur le sol français. Dès que la fuite a été constatée, le procureur général de Saint-Domingue, Dominguez Brito, a lancé un mandat d'arrêt international contre les pilotes. Ce mandat a été élargi aux protagonistes de l'exfiltration. Les 3 Français, Aymeric Choprade, Pierre Malinowski et Christophe Naudin. Le 4 février 2016, Naudin est arrêté au Caire, en Égypte, où il était en voyage d'affaires. Il s'oppose à son extradition vers la République dominicaine, mais perd la bataille judiciaire. Un mois plus tard, il pose le pied menotté sur l'aéroport de Saint-Domingue, là où tout avait commencé 3 ans plus tôt. Le Français, qui n'a jamais caché sa participation dans l'exfiltration, répète qu'il voulait réparer un déni de justice. Il est condamné à 5 ans de prison et à 33 000 dollars d'amende. Incarcéré dans le quartier de haute sécurité de la sinistre prison de Nayayo. Des tensions éreintantes pour le Français qui perd 35 kilos. Après 2 ans de prison, ses avocats, à l'époque maître Éric Dupont-Moretti et Antoine V, négocient son transfert en France pour raison de santé. Il finira de purger sa peine en maison d'arrêt, son état de santé qui nécessite toutefois, dès son arrivée à Paris, une intervention chirurgicale. Un an après le retour en France de l'homme qui les avait exfiltrés, Christophe Naudin, les pilotes et leurs complices présumés vont être jugés devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Ici aussi, ils encourent jusqu'à 25 ans de prison. Le lundi 18 février 2019, les pilotes du Falcon Air Cocaïne, Pascal Fauré et Bruno Audos, ainsi que 7 autres personnes, se retrouvent dans le box des accusés de la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. Tous accusés d'un juteux trafic de stupéfiants entre les Caraïbes et la France. L'aéroport de livraison étant celui de la Mole à Saint-Tropez. Les 2 autres occupants du vol Air Cocaïne, Alain Castani et Nicolas Pisapia, sont absents. Le premier, après avoir été condamné à Saint-Domingue, a été rapatrié en France, beaucoup trop malade pour être jugé. Son cas a été disjoint. Le deuxième, lui aussi condamné à Saint-Domingue, est assigné à résidence dans ce pays avec interdiction de le quitter. Les pilotes vont réaffirmer leur innocence, indiquant qu'ils ignoraient tout du contenu des bagages des passagers embarqués dans le jet privé. Après 7 semaines d'audience et un réquisitoire fleuve où le ministère public a demandé jusqu'à 25 ans de prison, les deux pilotes écopent de 6 ans de prison. Ils sont désormais dans l'attente de leur procès en appel, dossier qui reste donc en suspens. Le 12 mai 2018, à 10h15, Christophe Dodin est lui sorti de la prison de Villepinte. Suspension de peine pour raison médicale. Son avocat, Stéphane Monod, qui s'était inquiété au mois de février de sa dégradation physique, révélant l'existence d'une tumeur, déclare alors « C'est une très bonne nouvelle. Cela a été une procédure longue et il va maintenant pouvoir se reposer et se soigner. » Sans jamais oublier, évidemment, l'affaire Air Cocaïne.